Hello, hello tout le monde. Phil, est-ce que tu m'entends ou pas? Est-ce que tu es là?
Ouais, parfaitement, je t'entends.
Ok, ça va. Bah, normalement, il y a Kevin qui va nous rejoindre. Mais en l'attendant, bonjour et bien, enfin bonsoir plutôt et bienvenue à tous. Le temps que notre troisième gars nous rejoigne, en gros, on va un peu expliquer ce qui va se passer dans ce space. Donc évidemment, on va commencer par le match de Porto qui vient de se terminer, puisque c'est le plus frais dans les têtes, mais on parlera évidemment ensuite des deux performances d'hier, des deux défaites. Malheureusement, Phil, on va devoir passer par là, hein, je suis désolé.
Deux, moi j'ai vu, il n'y a que Braga qui a joué
Ah, jouer, effectivement, il n'y a que eux qui ont joué, je pense.
hier. Allô. On était là pour regarder ce qui se passait. Hein.
Ouais. Bah, du coup, toi, tu as regardé un match de la Sociedad, c'est ça, hier?
Ouais, très, très belle équipe, hein, la
Ouais.
Real. Hein. Enfin, d'habitude, c'est plus en Liga que je les regarde, mais là, en Ligue des Champions, c'est pas mal aussi.
C'est vrai que c'est sympa. Kevin est là, mais on attend qu'il soit passé au micro. Je ne sais pas si Alex nous entend pour pouvoir le faire passer au micro. Ou sinon, Phil, si tu sais comment on fait. Je t'avoue, je ne sais pas comment on fait.
Normalement, c'est l'autre qui doit le faire passer,
Ok.
donc ça peut être que Alex.
Ok. Bon, du coup, en attendant que Kevin ait l'accès. Qu'est-ce que tu as pensé de manière générale de... Alors, je vais te ménager au début, de manière générale de cette soirée aujourd'hui, portugaise.
Aujourd'hui, c'est dans la. C'est assez simple, étant donné qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui jouait, hier aussi au final. Hein. Mais encore une fois, on a vu un Porto à deux visages. Si même en jouant 45 minutes, ils finissent par gagner 4-1, qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient joué 90 minutes? Donc ouais, première mi-temps qui a été très chiante, mais des deux côtés, parce que. Il y avait genre 0,30 d'expected goals pour chacune des deux équipes. Donc c'est vraiment généralement synonyme d'un match assez pauvre en occasion. Je pense que les 15 minutes qui ont servi de la mi-temps ont dû mettre la voix de Serge Conceição à rude épreuve parce que l'équipe est rentrée avec clairement d'autres intentions en deuxième mi-temps. Ça s'est vu dans l'intensité, dans le pressing. Comme s'il avait injecté de la haine en intraveineuse, ils sont revenus comme des morts de faim en deuxième. Antwerp après a laissé beaucoup beaucoup d'espace dans le dos parce que il y a 4-1 mais ça peut finir à 7-8 hein, facile. Hein. Donc très bonne deuxième. D'habitude le FC Porto nous habitue à une très bonne première mi-temps, à une deuxième un peu plus dans la gestion. Aujourd'hui, ça a été l'inverse. Et au final, ils s'en sortent avec encore une belle victoire. Donc, ça fait déjà deux victoires en trois matchs. Et ça les met dans une position très favorable pour la suite.
Merci Phil. Kevin, t'es bien là avec nous maintenant?
Ouais, je suis bien là. J'ai raté l'heure du rendez-vous, mais je suis bien là.
T'inquiète, t'inquiète, on a pris un peu notre temps. Mais du coup, même question que Phil, de manière très générale, ce que tu as pensé de la rencontre de ce soir?
J'ai écouté un peu ce qu'a dit Phil du moment depuis que je suis arrivé là, mais je suis assez d'accord. Une première mi-temps un peu à oublier, quoi, où on n'a pas reconnu le FC Porto de d'habitude qui met un pressing intense dès le début du match avec l'envie de vouloir écraser son adversaire. Je les ai trouvés très attentistes avec. On n'a même pas eu la possession durant cette première mi-temps aussi. On a laissé la balle à Antwerp. On n'a même pas essayé de les presser un petit peu, essayer de voir s'ils pouvaient faire des erreurs et marquer sur ça. Et après, une deuxième mi-temps qui est totalement à l'opposé de la première, où on a vu un Porto entreprenant qui a commencé à presser, à mettre en difficulté son adversaire. Et avec l'entrée d'un joueur qui a fait tout le match quoi. Pour moi c'est son entrée est décisive avec Evanilson qui rentre et qui fait la diff. Pour moi c'est lui le facteur X du match. Enfin, s'il n'était pas là sur sa deuxième mi-temps, je sais pas si on aurait vu le même match parce que c'est vraiment le joueur qui a fait la différence sur tout le match. Enfin, c'est le joueur qui a facilité tous ses coéquipiers, que ce soit dans la passe, devant le but
ou au niveau de l'intelligence de jeu, il a fait toujours les bons choix. Donc voilà ce qui a permis à Auxerre Porto de faire une deuxième mi-temps comme on a l'habitude de les voir, entreprenant et surtout une équipe qui a marqué des buts. C'est surtout notre plus grand défaut en Ligue des Champions où on n'arrive pas à finir devant et Evanilson est venu un peu comme cet homme providentiel devant le but pour marquer.
Oui, qui a aussi beaucoup servi. C'était sans doute le joueur qu'il fallait pour libérer un peu Taremi. Puisque quand tu avais l'association Taremi-Pépé, bon, outre le fait que, comme vous l'avez tous les deux dit, l'animation offensive en première mi-temps, c'était pas trop ça. Mais quand tu as un duo Taremi-Pépé, ben forcément, l'attaquant, entre guillemets, de pointe, c'est plutôt Taremi que Pépé. En deuxième mi-temps, ben, avec Evanilson qui jouait un peu plus haut que Taremi, Taremi était beaucoup plus libre. Et ça coïncide aussi avec la meilleure animation offensive du FC Porto, quoi. Donc même outre les buts, effectivement, Kevin, tu en as parlé aussi du jeu de passe et de ce qu'il a pu apporter en qualité, en efficacité dans son jeu, même en appui, en remise, etc. Mais même par sa présence, même, et je pense que même s'il n'avait pas mis de but et qu'il avait raté des occasions, le fait de devenir la pointe et de libérer Taremi, c'était aussi effectivement un facteur important. Phil, Kevin, comment est-ce qu'on explique cette première mi-temps apathique du FC Porto?
Je suis pas sûr, mais moi je pense juste que Porto a beaucoup trop respecté Antwerp. Les mots prononcés par Conceição en conférence de presse pouvaient laisser présager ce genre de truc, mais souvent c'est un discours de coach où l'idée c'est de toujours valoriser l'adversaire en disant que c'est une équipe qui va être compliquée à jouer, enfin du discours typique. Mais on a l'impression qu'en première mi-temps, Porto a, comme je dis, a respecté Antwerp et un peu dénaturé son jeu. Et après, en deuxième mi-temps, bah, on a vu un autre FC Porto. Alors peut-être que, bien sûr, comme tu disais, l'entrée d'Evanilson a libéré Taremi parce qu'il fait une très bonne deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on voit Taremi, le Taremi version Ligue des Champions, clairement. Celui qui a été très bon aussi contre le Shakhtar et contre Barcelone. Donc aujourd'hui, il était un peu plus libéré en deuxième. Mais moi, je vois que ce genre de choses parce que au final, le football a, enfin, il a changé en deuxième mi-temps, mais parce qu'il y a eu certainement un changement de mentalité aussi. Et ça s'est vu tout de suite, mais genre bah après de toute façon il marque à la 46e,
Ouais, 40 secondes de...
mais vraiment ça s'est vu dès l'engagement. Bah déjà quand ils font un focus sur la tête de Conceição en revenant des vestiaires, tu vois que les mecs ils ont dû passer un sale quart d'heure. Donc je pense que ça a été juste, je sais pas, ils sont rentrés un peu timorés, un peu timides dans ce match. Match à l'extérieur, bon, il fait froid, petit stade, tout ça. Mais je pense qu'après, avec le discours du coach, et aussi, c'est un truc qu'il faut souligner, c'est on a beaucoup entendu les supporters du FC Porto aujourd'hui. Ils étaient nombreux, ils sont fait entendre plus que les supporters d'Antwerp qui étaient à la maison. Donc c'est aussi important à souligner. Derrière, ça a galvanisé toute l'équipe pour aller gagner ce match.
Ouais, t'as parlé de respect de l'adversaire. Moi, je me demande si c'est pas plus la peur du match piège, du déplacement un peu piège, etc. Mais
Ah bah
qui reste
ça
un peu
avait
dans
tout l'air
la
de ça.
midère.
Hein. Sur le papier, ça a tout du match au piège. Beaucoup plus qu'à Donetsk. Enfin, au Shakhtar, quoi.
Ouais, exactement. Kevin, est-ce que tu partages aussi ces explications, cette tentative d'explication pour expliquer la première période?
Oui, globalement, je suis d'accord avec ça. Hein. Je pense que c'est un peu du laxisme, du relâchement. Sur ce début de match où, comme l'a dit Phil, on a trop laissé jouer Antwerp alors que c'est pas notre habitude. Et je pense que Conceição a très bien fait hein, par rapport à son coaching et même par rapport à son discours. Je pense qu'il a dû leur remonter les bretelles et ça s'est vu directement. Et il y avait aussi, je pense, cette crainte du match pièce, comme vous l'avez dit, où tu te mets en difficulté directement, après tu as du mal à réagir. Il y avait aussi quelques comportements qui étaient un peu inhabituels, à l'image de Pep et Carmo, qui étaient un peu. Et même avec Diogo Costa, où il y a eu deux, trois malentendus sur quelques actions, où on avait vu un peu cette nervosité. Mais j'ai trouvé que l'entrée d'Evanilson a permis d'un peu de rééquilibrer tout ça. Et surtout, le but fait du bien à 40 secondes après la deuxième mi-temps. Enfin, c'est le meilleur moyen pour démarrer une deuxième mi-temps. Enfin, au bout de 40 secondes, tu marques. Enfin, tu peux pas mieux te relancer. Mais globalement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. C'est un peu de la nonchalance, du laxisme et un peu de nervosité aussi par rapport à ce match où fallait impérativement gagner pour se mettre à l'abri pour passer cette poule de Ligue des Champions.
Tu as parlé de Pep, effectivement. Je dirais peut-être première demi-heure avec des pertes de balles un peu inhabituelles. Enfin, il jouait plus, il a quand même 40 ans et il n'avait plus joué depuis quelques matchs. Donc, sans doute le temps de retrouver le rythme. Et en deuxième mi-temps, tout était réglé.
Il y avait la trêve internationale aussi. Donc, je pense que c'est aussi un
oui,
peu dû
aussi.
À ça où les automatismes sont peut-être un petit peu partis. Et même s'il y a eu un match de coupe entre-temps, mais peut-être ça a joué sur le début de match, en tout cas avec des automatismes entre certains joueurs qui n'étaient pas habituels, et aussi que Taremi était un peu esseulé et très bien pris aussi par la défense d'Antwerp. Du coup, il avait très peu d'espace pour avoir ce rôle un peu créatif devant et mettre dans les meilleures conditions ses coéquipiers.
Un point tactique un peu plus. Alors, Phil, j'aimerais t'entendre là-dessus aussi, mais évidemment, surtout Kevin, parce que toi qui suis. Ça fait du coup deux matchs d'affilée, mais ici plutôt un match et demi, que André Franco joue latéral gauche. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Parce qu'en coupe, il a été très bon. Ici, évidemment, c'est surtout Evanilson qui fait beaucoup en arrivant en pointe, mais c'est par la même occasion. André Franco revient comme latéral gauche. Il a fait un moins grand match qu'en coupe contre une autre adversité aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que vous pensez, connaissant Conceição, que ça peut devenir une vraie alternative pour lui, cet alignement de Franco comme latéral gauche?
Pas du tout. Je pense que c'est vraiment pour. Bah, surtout qu'on a vu qu'il était très vite en difficulté face à l'ailier Kemper pour Mia, là,
ouais.
Et qu'il est sorti très rapidement après. Non, je pense que c'était juste le temps de faire les bons choix tactiques et de trouver le bon joueur à mettre pour le remplacer, parce qu'après on a vu que Jorge Sanchez a pris sa place. Donc c'est pas aussi l'assurance tout risque défensivement, mais c'était déjà meilleur. Mais non, pas du tout, c'est pas une solution viable, et je pense que ça ne le sera jamais, parce que on voit très bien qu'il n'a pas les qualités pour jouer à ce poste. Enfin, c'est pas comme un joueur mal où avant il jouait ailier et on voyait qu'il avait quand même quelques qualités pour jouer au poste de latéral. Là, franchement, j'en vois très peu du côté d'André Franco pour jouer à ce poste-là.
Phil, oui, que tu partages cet avis?
Ouais, bah déjà, le pauvre, on est obligé de le décaler comme milieu excentré à droite, alors que de base, c'est un 10, pouvant jouer à 8 dans un milieu à 3, mais on est sur un joueur qui est de base très, très axial. Là, il est décalé pour pouvoir endosser le costume d'Otavio. Et au final, bah, il se retrouve à jouer arrière-gauche. Alors, sur une sortie de balle, il va t'apporter plus que Wendel, parce que techniquement, il est au-dessus. Maintenant, défensivement, bon, c'est un poste qu'il connaît pas, donc je suis pas sûr non plus que ce soit une option qui soit viable. Maintenant, ça date pas d'aujourd'hui que le FC Porto a des lacunes au niveau des latéraux. Même à 100%, quand tout le monde est présent, bah, y a des lacunes en termes de qualité. Mais alors là, s'il y a des blessures et des trucs comme ça, ça risque d'être encore plus compliqué. Maintenant, parfois, tu es obligé de faire avec ce que tu as sous la main. Donc, moi, j'ai un milieu de terrain qui joue ailier gauche, arrière, latéral gauche, latéral droit, 9,5. Donc, bon, c'est pas moi qui vais critiquer ce genre de choix.
Il n'y a que central, donc il n'a pas encore joué.
Central et 9.
Ah oui, 9, c'est vrai. Oui, mais gardien, je compte pas. J'espère qu'il n'osera jamais le mettre au goal.
Bah, je pense qu'à l'entraînement.
Je pense que s'il joue à 10 contre 11, Si t'es, t'es dans l'obligation d'être un joueur à ce poste.
Je pense que c'est lui hein, qui va y aller. Bon, ouais, il va le reprendre en disant qu'il ressemble à, il ressemble vite fait à Barthez parce qu'il a le crâne rasé, donc ça va le faire.
Ça peut être un truc comme ça. Ouais.
Est-ce que moi je voulais juste revenir sur un petit point aussi sur ce match et puis on parlera un peu des performances individuelles qui vous ont plu ou déplu. Évidemment, il y a le changement avec la montée d'Evanilson qui change tout. Mais il y a aussi un point très important à prendre en compte qui explique sans doute, outre la bonne deuxième mi-temps de Porto, c'est la très mauvaise entame de deuxième mi-temps de l'Antwerp. C'est que lors du match précédent, Antwerp menait 2-0 contre le Shakhtar à la pause. Et en 10 minutes, c'est 2-2. Et puis finalement, ça va devenir 2-3. Et Alderweireld va rater un pénalty à la dernière minute. Et moi, je regardais via Internet, mais sur les chaînes belges, pour voir ce qu'ils disaient à la mi-temps. Et j'ai regardé la deuxième mi-temps sur chaîne belge, après avoir regardé la première sur chaîne portugaise. Et le match recommence. Et ils disent, attention, il ne faut pas que ça se passe comme le Shakhtar. Et ils se disaient, je ne sais pas quel a pu être le message de Van Bommel à la pause. Parce que est-ce qu'il leur a dit attention, ils ne font pas qu'il y ait la même chose, mais dans un sens, en leur disant ça, ça leur rappelle qu'ils sont écrasés contre le Shakhtar Donetsk, ou est-ce qu'il ne faut pas en parler et prendre le risque qu'ils s'écrasent, et après 40 secondes, ils prennent le but, il y a un gros plan sur la tête de Van Bommel, et les commentateurs ont commencé à dire, mais enfin, c'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce qu'il doit faire et tu vois son désespoir dans ce truc-là, parce que ça s'est repassé exactement pareil, bon, à la différence que Porto est bien plus fort que le Shakhtar, donc ça a déroulé derrière, mais c'est déjà quelque chose qui s'était passé. Donc voilà, évidemment, il y a Porto qui a fait une très bonne deuxième mi-temps, mais en plus, tu es aidé par ce contexte où tu as une équipe qui sait très bien qu'elle va stresser en début de deuxième mi-temps, et c'est d'ailleurs pour ça que le but tombe sur un bon pressing d'abord de Galeno, puis de Taremi qui récupère la balle, mais d'une erreur de jeunesse du jeune Vermeeren qui n'a pas à faire ça après 40 secondes, mais où on voit que c'est un joueur qui est en plein doute parce qu'ils ont ce truc en tête que c'est déjà arrivé contre le Shakhtar et que ça risque de réarriver et ça arrive après 30 secondes et c'est pas un hasard donc voilà et après ben, Porto a évidemment su en profiter derrière et a déroulé contre une équipe qui était en doute. Juste un petit truc qui m'a fait rire, il y a un commentateur du match qui au moment où Alderweireld touche la barre de la tête dit ah c'est le tournant du match. Non, même si ça avait été 2-2, ça aurait fini en 2-4 ou en 2-5, ça n'aurait strictement rien changé. Mais
on va voir tant... plus, il y avait tellement d'espace.
Oui, ouais, franchement, oui. Et je pense même que si l'Antwerp avait mis un deuxième but, Porto en aurait mis plus, parce qu'ils auraient eu ce truc du « Ok, on s'est fait avoir une fois, on s'est fait avoir une deuxième fois, là on tue le match le plus possible. »
Mais genre, tu vois, vers la fin, Evan Nielsen, il va tout seul au but, il veut faire une passe, il veut régaler.
Il rate sa passe.
Concessao. Mais si le match il est un peu plus serré, mais il t'allume la cage.
Oui.
Et pareil, Taremi, à un moment, je sais pas si c'est pas sur le but de Stakio.
Il y a Pepe à un moment qui veut la mettre. Mais,
en deuxième mi-temps, il y a quatre occasions comme ça où ils sont en 3 ou 4 contre 1. Donc même si Antwerp met un deuxième but, ils en prennent 4 ou 5 derrière. Mais ce que tu disais, ça. Il faut pour le comprendre, il faut remettre les choses dans leur contexte et t'es mieux placé que n'importe qui ici pour connaître le contexte qu'il y a à Antwerp. C'est un club qui a de grandes ambitions, qui a été racheté il y a peu, qui travaille très bien parce qu'ils font beaucoup de coups sur le marché du transfert. Ils vont chercher beaucoup de jeunes prospects. Ils ont une cellule de recrutement qui bosse sur la data et ce genre de choses. Donc c'est un club qui bosse bien et qui est un peu le vent en poupe en Belgique, à l'instar de l'Union Saint-Gilloise aussi. Donc c'est un club qui est en soi jeune dans ce genre de pratique parce que c'est que récemment qu'ils ont l'ambition européenne depuis leur rachat. L'entraîneur est jeune, même s'il a beaucoup beaucoup joué dans sa carrière, il est jeune dans ce métier d'entraîneur. Et au final, les vieux briscards, c'est Toby Alderweireld et Vincent Janssen. Sinon, la plupart, c'est que des jeunes. Tu vois, un mec comme Windahl, c'est un mec qui est prêté parce qu'à l'Ajax, il jouait pas. Ekelenkamp, c'est un mec qui avait commencé à être en vue à l'Ajax. Mais pareil, après, il s'est perdu.
À la Z, à la Z, Ekelenkamp.
Ah, c'était à la Z?
Ouais,
Ah, pardon.
Ekelenkamp, c'est la Z.
T'as, pareil, comme tu disais, Vermeeren aussi, qui est un jeune, mais qui a tout juste 18
Il a
ans.
18 ans, ouais.
Anthony Valencia, l'équatorien de 20 ans, pareil. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes dans cette équipe. Et je pense qu'en Ligue des Champions, ça pardonne pas ce genre de. Tu peux pas faire d'erreur parce que
Ouais,
ça se paye
surtout
cash.
que, comme tu l'as dit, tu as cité les vieux briscards, donc Alderweireld et Vincent Janssen. En fait, c'est comme ça que l'Antwerp a fait son retour en D1. Alors certes, évidemment, il y a de l'argent du propriétaire, mais ils ont beaucoup investi justement sur des vieux briscards. Et
Bien
d'ailleurs,
sûr.
dans les premières années de leur retour en D1, ils transféraient beaucoup d'anciens joueurs du Standard qui avaient été champions
Ce
en
bon vieux
2009.
Raphaël,
Exactement.
ce
Mais
bon vieux Raphaël.
Rafaïlov, il était là, effectivement, ouais, c'est vrai qu'il était là, puis il est allé en Anderlecht, mais
Et
ils ont fait
Mbokani
venir.
aussi.
Il y a eu Mbokani, il y en a eu plein, il y a eu des Yatabaré, enfin, qui étaient moins
Miralas.
connus, Miralas, et ils ont fait revenir Bologna. Laszlo Bologna, qui a
Ah
été
oui.
évidemment champion avec le Sporting, mais qui a aussi été champion avec le Standard. Et du coup, ils avaient vraiment pris ce truc-là, où d'ailleurs, quand ils jouaient contre le Standard, la moitié de l'équipe, c'était des anciens du Standard, qui ne célébraient pas leur but, etc. Mais c'était vraiment des joueurs très physiques. Qui faisait beaucoup de fautes, qui mettait, mais avec vraiment cette mentalité aussi de joueur expérimenté. Et c'était vraiment une équipe pas très belle à voir jouer, mais qui était redoutable parce que bah, ils mettaient de l'impact comme des malades et ils avaient une grande expérience. Et petit à petit, ils ont réussi à trouver un bon mixte entre ces personnes expérimentées et des jeunes, qui leur a permis d'être champions l'année passée, avec un scénario un peu particulier, mais bref, c'était quand même avec Genk la meilleure équipe en Belgique. Et cette année, en fait, cet été, ils ont beaucoup plus misé sur les jeunes que sur l'expérience. Et ben, ça leur manque cruellement ici en Ligue des Champions. Et même en championnat, ils font pas une bonne saison pour l'instant. Ils sont sixième, mais ils ont perdu beaucoup de points. Et on sent que, ben voilà, ils manquent d'expérience. Donc ouais, effectivement, c'est un cas très intéressant, je trouve, l'Antwerp, qui a végété pendant 20 ans en D2, alors que c'est un club historique belge, vraiment un grand club belge. D'ailleurs, c'est le tout premier club belge, mais. Qui a végété pendant 20 ans, qui est remonté, qui a progressé à la vitesse éclair, qui est champion avec un très bon profil de bon mix entre les vieux au début et puis on met des jeunes. Et ici, bah manifestement, ils ont été trop vite vers les jeunes promesses et ils ont mis trop de côté l'expérience. Donc, à voir, à mon avis, à l'hiver, ça va sortir la planche à billets pour équilibrer ça. Mais voilà, c'est un cas, je trouve, très intéressant, effectivement, de comment est-ce qu'on jauge les jeunes promesses, les vieux briscards, le bon mélange entre les deux. Mais ouais, effectivement, l'expérience manque cruellement pour l'instant. En Ligue des Champions, ils sont trop courts. Et pour les suivre, bah voilà, depuis plusieurs années, ils sont moins forts cette année qu'ils l'étaient l'année passée. Et vraiment, cruellement, ils sont vraiment, vraiment moins forts
Ah,
à
c'est
tous
le
les niveaux.
problème quand tu atteins une Ligue des Champions et que tu n'es pas forcément préparé pour ça, il faut que
Ouais.
tu arrives à gérer et Ligue des Champions et championnat. Lens a ce souci oui, cette année aussi parce qu'ils ont a eu un départ de championnat compliqué. Newcastle arrive à faire un peu à faire un très bon début de saison entre la Ligue des Champions et le championnat,
Ouais, avec un autre type
mais
de budget, ça c'est leur avantage.
exactement. Et pour autant, c'est pas non plus les plus dépensiers,
Non.
mais ils ont cette sécurité. Donc c'est toujours un peu compliqué de en fait quand tu arrives à c'est limite un cadeau empoisonné de réussir à accrocher une Ligue des Champions quand t'as pas forcément les moyens et financiers et humains pour pouvoir s'installer longuement, sachant que la seule équipe qui arrive à s'installer depuis quelques années longuement en Ligue des Champions en Belgique, c'est
C'est
Bruges. Donc
Bruges, ouais.
et même eux dernièrement,
Ouais,
enfin
ça fait 2 ans que c'est
ouais,
compliqué.
c'est un peu compliqué aussi.
Mais d'ailleurs, ce cas-là, c'est un cas qu'on voit aussi avec le Portugal, bon, un échelon en dessous de la Ligue des Champions, mais tous les clubs portugais, les 5, 6e de chaque année, il y a ce problème à chaque fois en Europe. Et qui est aussi un autre truc, c'est qu'on dit le plus important quand tu vas chercher une Coupe d'Europe, c'est de réussir à garder tes joueurs, à garder ton équipe. Et si tu changes quelque chose, bah tu prends un risque. Et c'est ça qui est étonnant avec l'Antwerp, c'est que ils avaient les moyens financiers de garder la même équipe que l'année passée, mais ils ont fait un choix de changer leur stratégie, et qui est un choix où bah, là on voit par exemple que du coup leur président, il a beau être riche comme il veut, il est encore jeune dans le milieu du foot, et quand tu as l'argent, tu dois garder ton équipe. Et il a pris le truc de se dire, oh bah ça va, on grandit suffisamment vite, maintenant on va passer aux jeunes. Voilà, ils sont plantés. Ils ont l'avantage d'avoir les reins suffisamment solides pour se relancer sans problème pour la suite. Mais voilà, quand tu t'appelles Aruca ou Gilles Vicente, bah, si ça arrive, bah, c'est difficile d'ailleurs de redresser parce que tu n'as pas les mêmes moyens financiers.
Sûr. C'est pour ça que chaque année, tu as toujours une équipe qui sort un peu du lot au Portugal, mais oui, ça change chaque année. Parce que bah, forcément, après, ils n'ont pas la structure pour. Et les seuls qui ont des structures pour, ça serait plutôt Guimarães et Famalicão. Et le problème, c'est que, ou peut-être même Gilles Vicente, mais ils n'y arrivent pas parce que bah, chaque année, ils doivent vendre la moitié de l'effectif. Quoi.
Ouais. Bon, après ce petit interlude, on va revenir plus sur la prestation du FC Porto. Quel joueur est-ce que vous ressortez du lot? En bien ou en mal? Ça peut être dans les deux.
En bien, moi je dirais bah, Evanilson, mais j'en ai déjà parlé un petit peu juste avant. Après, j'aime bien souligner la prestation de Carmo.
Ah, j'allais dire pareil.
J'ai trouvé quand même assez bon, en tout cas, surtout sur la deuxième mi-temps. Première mi-temps aussi, il était un peu comme Pep, un peu.
Ah, mais comme toute l'équipe.
Comme toute l'équipe, un petit peu, ouais. Un peu en manque de repères et un peu nerveux, mais sa deuxième mi-temps est très bonne. En tout cas, tous les duels aériens, il les a gagnés. À la relance, il a été bon. Le troisième but, je crois que ça vient de sa part de lui.
Ouais, c'est le deuxième.
Le deuxième but, ça part de lui. C'est une relance.
C'est le deuxième.
C'est une relance où il a l'habitude normalement mais de péter surtout devant et de la mettre le plus loin possible.
Son crochet.
Là, il fait un crochet.
Ouais.
Ça, c'est que d'un mec qui est plein de confiance.
Un crochet, alors que c'est un défenseur. S'il se rate, ça fait but pour l'Inter, je pense.
C'est ça.
Oui. Après, il fait une bonne relance, pas s'appuyer pour jouer en match, quoi. Enfin, on n'avait pas l'habitude de voir ça de Carmo. C'est signe qu'il commence quand même à prendre confiance, même s'il fait toujours des petites erreurs de débutant, comme son carton
avant la trêve. Carton stupide,
totalement débile. Donc voilà, mais en tout cas j'ai bien aimé sa prestation, il a été solide face à Janssen, bah, il lui a laissé très peu de choses, il était toujours bon, présent dans la surface pour intercepter les centres, etc. Donc lui et Joan Mag aussi que j'ai bien aimé, mais comme à son habitude qui est très bon depuis le début de saison où il fait la différence sur son côté, tu vois que techniquement c'est facile pour lui et qu'il fait plein de différences sur le côté et que enfin, techniquement, il est très fort et que maintenant, ça se matérialise même par des passes décisives et des passes clés, bah, c'est encore mieux parce que sur le but d'Evanilson, là, sur la prise de volée, bah, c'est lui qui crée le décalage tout seul, qui va faire un magnifique centre pour Pépé et Pépé qui l'a remis à Evanilson. Enfin, c'est tout ce qu'on lui demande d'être décisif et bon sur son côté. Donc voilà.
Ouais, pour revenir sur Carmo. André Franco peut être content que c'était Carmo qui était derrière parce que le nombre de centres qu'il a contrés en première zone, c'était hallucinant. Après la pause, à chaque fois que Franco se faisait déborder, il y avait centre et c'était Carmo qui prenait la balle, systématiquement.
Ouais, parce que André Franco ne savait pas se placer, du coup c'était un peu Carmo qui était obligé de suivre toutes les actions de son côté. Et ouais, il l'a bien fait, en tout cas il était toujours là au bon moment, au bon endroit pour dévier la balle, pour la mettre en touche ou autre. Donc ouais, t'as très bien résumé aussi cette partie-là.
Phil, toi, t'es joueur à ressortir.
Pareil, j'ai bien aimé Carmo, pour les mêmes raisons, parce que voilà, on sent que le garçon commence à prendre confiance et on commence à voir son vrai niveau qu'on avait vu du côté de Braga. Taremi forcément pour cette deuxième mi-temps qui se met en mode de Ligue des Champions, bon bah c'est pour ce genre de raison que le Milan s'intéressait à lui, et Alan Varela parce que c'est pas forcément le genre de joueur qui te tape à l'œil parce que c'est pas celui qui marque encore qu'il aurait pu aujourd'hui. Qui marque ou qui fait des passes, mais c'est ce genre de joueur qui équilibre comme le faisait Uribe avant lui, et c'est une très bonne pioche, et donc forcément c'était le joueur parfait pour remplacer Uribe. Moi qui ai une petite euh, J'ai un petit penchant pour River Plate en Argentine et pour Benfica. Ça me fait deux raisons de le détester encore plus. Mais c'est un sacré joueur de ballon quand même.
Oui, et d'ailleurs, on a senti en ce début de saison son absence. Hein. Le temps qu'il trouve, même que Varela prenne ses marques, c'était hallucinant. Bah, d'ailleurs, même l'année passée, hein. La saison passée, quand il n'était pas là, on le sentait tout de suite.
Mais d'ailleurs, il n'a pas pris trop de temps à s'adapter.
C'est vrai, mais après, je trouve qu'il manque encore de... Il fait quand même pas encore quelques erreurs, et je trouve qu'il n'est pas encore à 100% de ce qu'il pourrait donner. Enfin, j'en attends encore plus de lui, quoi. Pour moi...
Notamment dans la construction, ouais.
Ouais, ouais.
Ouais.
Mais tu vois, les prémices, après, en tout cas, ouais, d'un joueur qui peut jouer plus haut, quoi. En tout cas, il a...
Ouais, bah, il a jamais été mauvais, en fait. Hein.
C'est ça, il n'a jamais été aussi excellent, à part contre le Barça, où là, c'était vraiment un très bon match, mais sinon, je ne l'ai pas trouvé non plus transcendant à chaque fois.
Non, effectivement.
Mais tu sens que c'est pas encore, c'est pas un joueur complètement fini et que justement sous Conceição il peut énormément évoluer. Bah, comme Luis Diaz quand il est arrivé, tu voyais que c'était un joueur qui pouvait être différent, mais qu'il manquait de d'épurer un peu son jeu et puis arriver un moment où le championnat était trop petit pour lui, quoi.
Ouais. Mais d'ailleurs on voit qu'il cherche encore parfois son positionnement. Il y a certains matchs il joue plus bas, certains matchs il joue plus au milieu. Tu sens qu'il cherche encore un peu en fonction de l'animation. Sa meilleure position.
Ça dépend aussi de l'organisation. Après, il lui manque un Otavio aussi.
Oui.
Aussi. Donc ça change tout par rapport à ton système. Parce que c'était non seulement tu avais Uribe qui équilibrait énormément, mais tu avais Otavio. Donc tu avais deux piliers qui t'équilibraient le jeu et c'est beaucoup plus facile quand tu as des joueurs comme ça.
Effectivement. Est-ce que tu avais encore un autre joueur, Phil, à mettre en avant?
Ouais, bah, comme Kevin, João Mario, encore une fois, qui revient à son niveau pré-blessure. Donc c'est bien pour lui et c'est bien pour l'FC Porto qui en avait grandement besoin d'un latéral droit de qualité. Donc espérons pour eux et pour lui qu'il continue à ce niveau-là. Mais espérons pas pour nous, du coup.
moi, j'aurais juste un autre joueur à mettre en avant, c'est Pepe. Pas Pep, hein, Pepe, que j'ai trouvé, bon, en première mi-temps, il était un peu loin de Taremi, et du coup, mais je trouve que c'était le seul par lequel il y avait un peu de danger qui venait, notamment quand il partait de sa zone axiale pour se déporter sur le côté et essayer de jouer sur Franco en un temps dans le demi-espace. Il y a eu le rare reconversion qu'a eu le FC Porto après la demi-heure, parce qu'avant la demi-heure, ça venait plutôt du côté de Galeno. Mais après la demi-heure, il y a eu 2-3 sorties où il dévient en un temps pour trouver Franco dans le demi-espace. Là, j'ai trouvé intéressant, même si dans sa zone de deuxième attaquant, il était fort absent. Et après la pause, bah, systématiquement, il faisait soit un appel contre appel, soit il faisait un petit démarquage en retrait pour se séparer du latéral gauche et être systématiquement seul. Et bah, au final, son déplacement ouvre l'espace pour João Mario sur le deuxième but. Son déplacement amène le renversement de jeu de João Mario sur sa remise en un temps pour Evanilson. Donc voilà, j'ai trouvé bon. C'est pas le meilleur match qu'il ait fait, mais je trouve que c'était un des moins mauvais en première mi-temps et qu'il a été dans le ton en deuxième, notamment pour écarter le jeu sur les renversements. Donc voilà, Pepe, je l'ai trouvé bon. Et j'ai trouvé bien moins bon sur plusieurs matchs cette saison.
Je le cite même plus, j'ai l'impression que. À chaque fois, il est toujours dans les plus.
Ouais, mais après, il est toujours
dans les grands matchs. Il est tout après, le temps.
Frustrant, mais j'ai l'impression que c'est le meilleur joueur de Porto.
Ouais, mais il est frustrant parce qu'il est pas décisif en fait. C'est ça son problème, c'est que, enfin, ça se matérialise pas par des passes décisives au début. Enfin, Pepe, je l'adore aussi, mais le nombre d'occasions qu'il a et qui se crée et le nombre de buts que ça fait au final, bah, c'est très peu en fait. À chaque fois,
il est dans une bonne position.
Mais après, il peut marquer. Au final, il va tirer sur le gardien. Il va rater sa passe. Enfin,
Ouais, mais moi, je pense que c'est parce que c'est un manque de lucidité, parce qu'il court énormément. Déjà, parfois, on l'oblige à jouer arrière droit. Et quand il joue à son poste, il vient énormément défendre, parce que c'est ça aussi, hein, qui fatigue. Arriver après dans la zone de vérité, bah, parfois, tu peux manquer de lucidité. Alors je peux comprendre pour un supporter que c'est frustrant, et je suis le premier moi à critiquer ma mobilette qui fait que courir et qui est pas décisif, mais ça reste un joueur de fou quand même. Et je pense et surtout, que c'est votre meilleur joueur.
Oui, bien sûr.
Et surtout, il n'a pas la qualité qu'avait un Otavio pour compenser le fait que ses courses le fatiguent. C'est-à-dire qu'un Otavio, il avait une frappe de loin, une capacité à contourner une défense. Ou, bah voilà, s'il défendait, s'il repartait en ressortie de balle et qu'après 10 mètres, il sentait qu'il était un peu fatigué, il avait le coup de pied capable d'allumer de loin ou de faire une ouverture qu'a moins Pépé. Pépé, c'est plus un joueur qui va aimer provoquer, dribbler en un temps, etc. Et donc, bah, si après 10 mètres, il est fatigué, bah, il va quand même continuer à courir pour aller provoquer en 1 contre 1. Et donc, effectivement, il va perdre en lucidité et il n'a pas cette puissance, on va dire, cette capacité d'être dangereux de loin, alors que lui est plus un dribbleur, un peu comme Galeno, même si Galeno a quand même une belle frappe de loin, mais c'est des joueurs qui aiment principalement provoquer en 1 contre 1, alors qu'un Otavio est plus moins bon en 1 contre 1, mais plus complet et capable de profiter plus facilement d'un manque de lucidité de sa part, quoi. Ben voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou on passe au match d'hier
Après, moi je voulais juste mentionner, vu qu'on parlait de Galeno, que son match, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Franchement, ce match, en tout cas sur la première mi-temps, j'ai trouvé catastrophique. Enfin, c'est vraiment le Galeno qu'on aime pas, qu'on déteste même. Enfin, c'est le poulet sans tête à son prime. Enfin, sur cette première mi-temps, en tout cas, c'est que des mauvais choix. À chaque fois qu'il doit donner le ballon, bah il fait une passe ratée ou il fait une conduite de balle qui part en touche. Enfin, franchement, ce joueur, c'est vraiment tout ou rien et c'est tellement frustrant parce que il a des qualités, mais la tête ne suit pas. En fait, il joue que sur ses qualités de vitesse et il manque toujours de précision dans le dernier geste, la bonne passe ou autre. Et en fait, c'est frustrant parce qu'il a vraiment pas ce QI foot. Qui pourrait faire que ce sera un joueur incroyable, mais il n'a pas ça. Et son match, franchement, j'étais devant ma télé, je devais l'insulter à chaque action parce que à chaque fois, il ratait. Tu sais qu'en regardant la télé, ouais, il va faire la passe là à ce moment-là. Et ben non, lui, il décide d'aller tout droit ou d'aller s'enfermer. Franchement, son match, il est horrible à regarder.
Eh ben, je vais un peu. Alors je suis d'accord avec toi dans la globalité, mais je vais un peu contrecarrer le truc. Moi, je l'ai trouvé meilleur en première mi-temps qu'en deuxième. Parce qu'en fait, moi, il y a deux actions où bon, il a soit pas de chance, soit il y a un manque d'efficacité. Mais par exemple, sur sa frappe, qui n'est pas cadrée, il fait le bon choix de s'enfermer là parce qu'il attire deux défenseurs avec lui. Et puis bon, il frappe, bon, il manque le cadre, ça je suis d'accord. Il aurait dû au moins la cadrer. Mais voilà, ça pour moi, il fait le bon choix parce qu'il attire deux joueurs avec lui. Et le deuxième, c'est quand c'est sur un contre où il centre, c'est sur la récupération haute de Taremi, Franco qui l'écarte, et je trouve que justement, il pourrait frapper, et il fait le centre, la remise parfaite pour Taremi, dont la frappe est contrée par Youssouf, je crois, qui revient bien, mais en soi, s'il n'y a pas Youssouf, ou si Taremi, sans lui jeter la pierre, mais frappe à un autre endroit, ouais, il met un assist, et il a fait le meilleur geste possible. Donc tu vois, ou en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il y a eu moins d'action où il a réellement créé quelque chose, même s'il n'y a pas eu de finition en première, enfin pas eu d'efficacité derrière, mais j'ai vu ces deux actions-là, je me suis dit ok, là c'était des bons choix les deux fois, selon moi, mais voilà, mais de manière générale je suis d'accord avec toi, et quand tu vois surtout sa fin de saison dernière et ce début de saison-ci, enfin, on a des années-lumière l'une de l'autre.
Non, mais en plus le scénario en deuxième mi-temps, il est clairement pour son style, oui, de jeu
aussi.
Et au final, bah, c'est le seul offensif limite que tu vois pas trop dans le deuxième match.
Ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Donc Monsieur Galeno, il faut se reprendre. Sinon, Kevin va t'insulter sur Twitter.
Il va vite perdre sa place parce que franchement, s'il conduit comme ça, un petit tour sur le banc et même depuis quelque temps, il mérite un petit tour sur le banc pour aller se remettre les idées en place et faire les bons choix au bon moment parce que. On n'en peut plus de ces passes ratées. Enfin, franchement, à chaque match, je pense qu'il doit être à 10 passes ratées ou un truc comme ça. Enfin, c'est incroyable. Certes, il a un jeu où c'est beaucoup de provocations, etc. Mais enfin, des passes simples ou des passes dans le bon tempo, il sait pas faire, quoi.
Est-ce que c'est pas en plus le joueur offensif qui a le plus joué cette saison à Porto ?
C'est possible.
J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un match à Porto, il joue. Là où Pepe, Taremi, etc., même Evanilson, ça bouge un peu. J'ai l'impression qu'il est tout le temps là, même dans les matchs de coupe, même dans les matchs avec l'équipe B.
Bah, c'est possible parce qu'après, même Constantin aime bien le mettre en latéral gauche maintenant aussi, c'est sa petite
puissance.
Quand il faut faire monter Borja, ça, il le met à gauche.
En fin de match, il court beaucoup, allez, on va le mettre latéral gauche. Enfin, ça aussi, c'est une stupidité. Je pense pas qu'il a les qualités pour jouer à ce poste non plus, mais voilà. Mais je ne suis pas coach.
Surtout qu'en plus, c'est rarement bon signe parce que souvent, quand ça arrive, c'est parce qu'il faut égaliser ou gagner le match en fin de match.
Après, il avait déjà joué piston à Braga, une défense à 3. Donc,
oui, mais latéral, je pense.
Oui, mais c'est pas latéral. C'est piston, c'est pas latéral.
Oui, et, oui, bien sûr.
Bon, bah, sur ces belles paroles, je pense qu'on va passer au match d'hier. Alors, Phil, est-ce que tu veux qu'on crève l'abcès tout de suite ou on garde pour la fin?
Mais ils ont fait le même prestation hier, non?
Un jour. Ah là là, il fait des blagues, Kevin. Fais comme tu veux, si tu veux m'achever tout de suite ou plus tard, peu importe, je suis déjà mort.
Ok, Kevin, est-ce que toi t'as vu le match? Parce que moi je n'ai pas su le voir, j'étais à Braga, donc j'ai pas vu le match de Benfica. Donc est-ce que Kevin, toi tu l'as vu?
Non, je l'ai pas vu, donc je vais m'abstenir, okay. Mais en tout cas je suis content du résultat.
Bon Phil, vas-y. Crève l'abcès, on va pas trop t'embêter avec ça. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de t'embêter.
Ouais, il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, c'était pas nous, certainement pas. La Real est venue jouer son football chez nous, avec une équipe séduisante, une défense classique, donc avec Amari Traoré, le Normand, Zubeldia. Donc, en défense, après le duo Merino Zubimendi qui font ce qu'ils veulent. Et alors après, voilà, les trois de devant. Barrenecha qui a mélangé Alexander Ba, tel un thermomix. Takekubo qui a mélangé Jurassic comme une machine à laver. Les deux. Et puis, mais on n'a même presque pas vu Oyarzabal. C'est te dire. Donc, voilà. L'année dernière, avec Florentino titulaire, on n'a pas perdu un match. Du coup, c'est pour ça qu'il n'a aucune minute en trois matchs en LDC. Je comprends pas. Chiquinho rentre en fin de match. Cabral rentre à la mi-temps alors que Moussa était un des moins pires. En première, c'est incompréhensible. Rafa est mauvais, nul depuis un mois et demi, voire deux mois presque. Alors au début de saison, c'est bien, il marque, il fait des passes, mais dans le contenu, dans l'apport, sans parler stats, c'est mauvais. Mais il continue à être titulaire. Jean-Mario qui commence le match, nul aussi. Neres, il était à l'entraînement, à un moment il essaie de faire une frappe, il fait une passe à Remiro. En fait, dans cette équipe, il y a un joueur qui court partout, et c'est Neves. Jean Neves, c'est le seul qui cavale et qui au moins, voilà, il montre un petit peu quelque chose. Alors, je suis d'accord. Florentino a pas été bon contre Stuttgart, mais déjà. Jouer à Stuttgart, c'est pas toujours une mince affaire. Il y avait beaucoup d'espace dans son dos, certes, très peu aidé aussi par Chiquinho. C'est différent de jouer avec Chiquinho et de jouer avec Jean Neves à côté. Et je pense que le plan de jeu de Stuttgart, c'était ça aussi, c'était d'aller chercher Gitane dans le dos des milieux. Ouais. Et ce match-là, on était tous un peu à la ramasse. Donc, et c'est pas pour avoir loupé un match que tu peux mettre le gars complètement au bagne, surtout quand tu vois des gars qui sont nuls depuis un ou deux mois et qui jouent constamment. Voilà, t'as pas de backup à Alexander Ba. Donc s'il est nul, ta seule solution c'est de mettre Orsnes, il a été aligné au milieu, il sait même plus comment on joue au milieu, le pauvre il est trimballé à tous les postes. Donc non, il y a un souci, on n'est pas bon. En conférence d'avant-match, tu viens parler du FC Porto alors que tu vas jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est lunaire. C'est quoi? C'est Rovitole qui est revenu ou qu'est-ce qui se passe? Donc non, bah, c'est pas, je suis pas super étonné en soi. Je m'attendais pas à grand-chose. J'ai eu pire. T'as l'impression que les mecs, je sais pas, ils ont pas envie, il n'y a pas de mental. En fait, si tout le monde pouvait jouer comme les petits, parce que l'entrée de Gouveia, c'est la seule qui m'a donné un peu de baume au cœur. Jornet, j'y cavale partout et Antonio Silva, même si parfois il peut être un peu plus en difficulté, ça reste quand même un des rares qui est là et qui montre que de quel bois on est fait quand même. Parce que sinon, les autres joueurs, les censés être leaders tauliers, bah, ils sont pas là. Ils répondent pas présents. Le public répond pas présent. On a l'impression d'être dans une morgue. Les gens sont amorphes. C'est lunaire. C'est lunaire. Et bah, du coup, c'est pas étonnant. Je pense que je suis pas de, je vais pas m'avancer, mais. Je pense que c'est mort, même je pense pour l'Europa League, parce qu'il faut que tu battes la Sociedad chez eux. Ils ont eu le ballon, ils t'ont fait tourner chez toi. Je vois mal comment on va aller gagner à San Sebastián. Il faut que tu ailles gagner à l'Inter. Ouais, d'accord. Et si tu bats Salzbourg, il faut que ça soit par 3-0.
Ouais.
Donc, je veux bien peut-être essayer d'aller gratter un nul à la Real dans le meilleur des cas, essayer de battre Salzbourg en espérant que Salzbourg ne fasse pas de surprise, eux qui étaient pas loin d'aller chercher des points contre l'Inter. Donc, dans le football, tout est possible, mais il va falloir jouer beaucoup plus que ce qu'on joue actuellement et que ce qu'on a montré hier, parce que c'est le néant, en fait. T'as l'impression d'être impuissant. Je comprends pas comment on peut passer d'une équipe qui joue au foot à une équipe qui est baladée par n'importe qui. J'ai l'impression de. En fait, c'est ça, c'est une saison bien, trois saisons catastrophiques et on retombe dans nos travers. Donc voilà, j'ai pas de. Je t'avoue que j'ai pas de solution. En même temps, je suis pas payé pour trouver des solutions et j'ai pas les diplômes pour les trouver.
Et tu n'as pas été prolongé pour non plus.
Et non plus. J'espère juste que Roger va enfin se reprendre et essayer de trouver une combinaison. Je pense, moi, à mon sens, peut-être parce que je l'ai pris en grippe, mais je demanderai à Rafa de s'asseoir à côté de moi et je partirai sur un milieu à trois parce que il faut densifier le milieu de terrain à tous les matchs, même contre des équipes censées être plus faibles. Tu perds la bataille du milieu. Et c'était criant contre Toulouse déjà. Donc, ça a été visible dans les trois matchs de LDC. Je pense qu'il faut repasser un milieu à trois avec Tine en vraie sentinelle, donner plus de liberté créative à Kökçü parce qu'on voit bien qu'il peut pas défendre dans un milieu à deux, il est pas habitué.
C'est pas
À
possible.
Feyenoord,
Il est trop lent et trop peu
mais il
mobile.
est juste, il est pas habitué. Enfin,
Aussi, ouais, aussi.
même en sélection, il joue avec un milieu à trois. Alors, il est moins dépositaire du jeu parce que c'est surtout Çalhanoğlu, mais quand même, on lui demande pas de courir autant. Et surtout, c'est pas le même jeu qui est prôné par la sélection de Turquie et par Schmidt. Donc, dans le modèle de jeu, c'est pas possible. Peut-être qu'il pensait en Kökçü pouvait remplacer Enzo Fernandez, mais Enzo Fernandez avait d'autres qualités. C'est pour ça que il est champion du monde. C'est pour ça que il est à ce niveau-là. Parce qu'il savait combler les trous, parce qu'il courait énormément, parce que voilà. Donc c'est des joueurs différents. Kökçü n'est pas habitué à ça. Je pense qu'aligner João Neves, Kökçü et Tino, voire Orsnes, donc avec ces quatre-là au milieu, ça ne me semblerait pas déconnant. J'aimerais bien voir Guedes, parce que je pense que c'est un joueur qui peut t'apporter quelque chose, ne serait-ce que par l'envie. Et enfin, que Schmidt retrouve un peu un système qu'il a l'habitude. Qui est 4-3-3 avec une pointe basse, deux ailiers virevoltants et qu'on retrouve du football tout simplement là. Et ça fait un moment que c'est la galère. Il faut changer quelque chose.
Une question du coup, toi tu parles et tu cites ici un 4-3-3 avec deux ailiers virevoltants, ça voudrait dire Di Maria out?
Pas forcément, il pourrait.
À venir au milieu.
Tu peux t'adapter. Je suis pas sûr qu'il ait encore les qualités pour être. dans un milieu à 3 comme soit Ancelotti, parce qu'à l'époque, il avait un sacré coffre.
Ouais.
Mais si à la limite, tu vas mettre deux ailiers qui provoquent, parce que au final, tu n'en as qu'un seul dans ton effectif, voire allez, tu peux inclure Gouveia si tu veux. Et peut-être Guedes si tu le considères comme un ailier, même si aujourd'hui je pense qu'il est venu pour être plus 9 ou 9,5. Mais tu peux avoir voilà, Di Maria à droite et quelqu'un d'autre à gauche. Donc pourquoi pas un Guedes ou un Gouveia ou même Rafa le décalé, même si je pense que son poste ça reste quand même 9,5. Mais essayer de trouver une solution, même s'il faut l'asseoir à Di Maria, parce que tu sais qu'il ne peut pas courir 90 minutes, parce qu'il ne va pas revenir défendre. Et aujourd'hui, ça pose problème. Dans un système avec un double pivot, ça pose problème. Est-ce qu'avec un milieu à 3, il serait plus à l'aise? Je ne sais pas.
Dis-moi. Est-ce que selon toi, moi, c'est un truc que je me demande de plus en plus en voyant les matchs, est-ce que dans un 4-2-3-1, Kökçü et Rafa, ça peut marcher. Même en termes de style de jeu. J'ai l'impression que c'est pas des styles qui vont aller ensemble. Dans un 4-2-3, hein. Dans un 4-3-3, ça peut être différent. Hein. Effectivement, Rafa sur un côté, ou peut-être différemment. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que c'est des joueurs qui jouent le même jeu, le même football tactique. C'est pas les mêmes.
Ah, pour toi,
c'est pas des jeux
genre
qui, dans leur plus grande qualité. Ben, pour moi, Kökçü, c'est... Je sais pas. Pour moi, je le vois plus comme un 10.
C'est un joueur de possession.
Oh, Rafa, et on va. Oui. Voilà. Et tu vois, ou alors Rafa, à la limite, faudrait peut-être le jouer dans la profondeur. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai l'impression que c'est des styles qui, s'ils sont tous les deux dans leur bonne condition, ne savent pas jouer ensemble. En tout cas, dans un 4-2-3, hein, tel que Benfica joue pour l'instant. Dans un autre système, ça pourrait peut-être aller, mais.
Je pense qu'au final, si on veut voir un milieu plus dense, pour moi, Kökçü doit potentiellement prendre la place de Rafa un peu plus haut. Donc, soit dans un milieu à 3,
ouais,
soit en 4-2-3-1, mais avec Kökçü en 10.
Et, en 10.
Et peut-être, surtout quand tu joues des équipes, par exemple, tu sais que tu vas avoir moins de transition et avoir plus le ballon.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, Rafa, ça fait quelques matchs où, à parcourir, et il nous apporte pas grand-chose, malheureusement.
Ouais, il est perdu entre les lignes, un peu.
Ouais. Et surtout, on l'a vu l'année dernière, s'il y a 2-3 joueurs qui le prennent en grippe au milieu et qu'il n'a plus d'espace pour pouvoir courir, et tout de suite, il disparaît du match.
Ouais.
Et ça, Conceição l'avait bien compris, il arrivait à le museler. Donc aujourd'hui, ça pose problème. Le fait que Schmidt ne change pas, ne se réinvente pas et reste campé sur ses positions, ça pose problème. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, je pense que j'aurais voulu voir Kökçü un peu plus haut. Pour moi, je milite toujours sur un 9 parce que encore hier, comme je disais. Il sort, mais pour moi c'est un des moins mauvais parce que Cabral, on voit bien que c'est pas possible.
Ouais.
Tungsten, on n'a rien vu. Donc la vraie.
Contitoril, c'était pas mal. Tungsten. C'était pas trop mal. Ouais.
Bah,
c'était
pas
un
mal,
des moins mauvais.
il fait beaucoup d'appels, mais le problème c'est que il est servi 4-5 fois, et il envoie que des ballons au-dessus.
Oui.
Donc pour un attaquant, c'est un peu dommageable.
Après, au moins, il se crée des occasions.
Oui,
pour
déjà.
Pour l'instant, c'est
déjà
bien.
C'est mieux que Cabral.
Voilà.
Mais on dirait que la seule solution, la seule concurrence à Moussa, c'est Guedes au final. Et oui. Il se peut qu'à terme, ce soit ça qui se passe. Donc, à voir. Moi, je trouve que Moussa est intéressant dans son style de jeu, dans l'association. C'est un mec qui peut te permettre de faire monter le bloc. Je comprends pas qu'il y ait encore ce doute de la part de Schmidt à ce poste-là, mais ma foi, moi je ne bosse pas avec eux tous les jours, donc.
Et surtout que quand il a des ballons, ils finissent quand même souvent au fond. Le problème, ouais, c'est qu'il en a pas. Le problème, c'est qu'il en a pas toujours.
Mais hier, à part le but hors jeu, il a rien.
Oui, c'est ça. Oui.
Et parfois, contre Salzbourg, c'est lui qui se procure les occasions tout seul.
Oui.
Et souvent, il bonifie même ce qu'on lui donne, et parfois, c'est pas une mince affaire hein, ce qu'il reçoit. Donc, ouais, je lui jetterai pas la pierre, de toute façon.
Bah, je suis globalement bien d'accord avec toi. Kevin, est-ce que tu rejoins cette analyse générale sur la situation actuelle de Benfica, puisque t'as pas vu le match, je ne l'ai pas vu non plus, mais c'est quand même ce que décrit Phil, ça reste quand même une dynamique qu'on ressent depuis quand même plusieurs semaines du côté des
Ailes. Oui, on ressent un relâchement de la part de Benfica, et déjà depuis même le début de saison, hein, c'est pas la même équipe que l'année dernière, en tout cas, comme vous l'avez dit, j'ai l'impression que le départ de Enzo Fernandez, ça fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup de mal à Benfica, et c'est un peu... En fait, ça a un peu métamorphosé toute l'équipe, et ils n'ont pas su trouver le même profil de joueur pour compenser ce départ, parce que tu avais quand même un joueur qui était d'une classe mondiale, et c'est quand même difficile de remplacer un joueur comme ça. Et Kökçü, c'est pas le même profil, et ça n'a pas ce profil défensif. Et j'ai l'impression aussi que Schmidt n'a pas vraiment de profil défensif dans son milieu de terrain. C'est plus des profils. C'est pas des profils défensifs purement parlé comme Florentino. Florentino devrait être titulaire dans cette équipe. En tout cas, c'est le seul joueur de ce profil dans le milieu de terrain. Et il n'est pas titulaire. Et tu vois très bien que Benfica est assez fragile dans tout ce qui est transition et impact au milieu de terrain. Enfin, c'est très léger. Même si tu as João Neves qui a ce côté un peu grinta et qui va essayer de te récupérer les ballons et autres. Mais dans l'impact physique, bah, ça manque d'un joueur comme ça. Et ça se ressent dans l'équipe aussi, cette envie, comment dire. Enfin, il y a moins d'envie du côté de Benfica, et j'ai même l'impression aussi que le discours de Schmidt passe un peu moins. Enfin, c'est plutôt un discours redondant où il dit toujours la même chose, où ouais, on a bien joué, mais voilà, il faudrait qu'on marque plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il retourne le problème sans le régler, quoi, en cherchant des excuses et en trouvant pas les solutions pour régler ce problème, quoi.
Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Je vous propose à la limite, à nos auditeurs et tout, et à vous, de reparler plus précisément de ce cas Benfica, peut-être aussi d'un problème de Schmidt qui, comme tu l'as dit, Kevin, n'a pas réussi à trouver le même profil qu'Enzo Fernandez. Est-ce que c'est pas un entraîneur qui n'est pas capable de s'adapter à un autre type d'effectif? Mais du coup, de parler de ça plutôt dans un podcast ou une émission, comme ça on va passer au match de Braga, sinon... Passionné comme on est, je sens qu'on va terminer à 2h du matin. Donc, Braga, est-ce que l'un de vous deux a vu ce match? J'entends qu'Alex est de retour, c'est ça?
Peut-être pas en dire. Bah.
Ah non, non peut-être pas. Ok. Kevin, Phil, est-ce que vous avez vu vous, le match de Braga?
Ah, moi, j'étais occupé, moi.
Toi, tu pleurais déjà trop.
Moi, à un moment, je me suis dit, est-ce que je change ou pas?
Si, j'ai vu. Je suis de retour, les amis.
Ah, oh non, on va finir à 2h du matin.
Non, et c'est pas mal plus grand bavard.
Moi, il parle pas autant que moi. Non, c'est vraiment pas.
Du coup, Kevin, j'ai pas même... est-ce que toi, t'as vu le match de Braga?
J'ai pas vu en entier. J'ai vu que des mi-temps. Mais j'ai pas vu la première.
Okay. Moi, je t'ai attendu, Antoine, mais t'es pas venu.
Mais attends, c'est plutôt moi et Mathieu qui t'avons attendu.
Non, mais juste, j'étais à partir. On a attendu 1h30 avant de rentrer dans le stade. C'était de la folie.
Ah ouais.
C'était une dinguerie. C'était hier 1h30 pour rentrer juste dans le stade. Je pense qu'ils n'ont pas su comment gérer ça. Enfin, ce qui était logique aussi, je peux comprendre. Mais je suis arrivé à 18h30, je suis rentré au stade pile poil au coup d'envoi. Du coup, je ne sais pas si vous m'avez attendu, mais dès que je suis rentré, je suis monté direct. Quoi.
Ouais, non, t'inquiète. De toute façon, on était déjà monté. Hein. Okay, ouais, tant que tu rentres, on est arrivé, les joueurs étaient sur le terrain, il y a les limes de la Ligue des Champions.
30 000 personnes, ils ont fait qu'une seule entrée. C'était jamais vu ça de ma vie.
Oui, oui, et toute petite. D'habitude, elles sont toutes ouvertes les entrées. Ouais. Et là, il y en avait 4. J'ai pas compris non plus. Mais bref, l'important c'est qu'on ait vu le match en entier. Mais du coup, Alex, je vais te lancer dessus rapidement ton retour sur ce match de Braga contre le Real.
Fier. Alors, je suis pas supporter de Braga, mais très fier de ce qu'on a pu voir hier. Je pense que tout amoureux du football portugais et encore plus les supporters de Braga, notamment notre ami Mathieu, peuvent être très fiers de ce que leur équipe a proposé hier, et notamment sur l'ensemble de la Ligue des Champions. Parce que contre Naples, tu ne dois jamais perdre ce match, tu peux au moins obtenir un nul. Contre Berlin, bon, tu démarres très mal, mais tu finis par gagner ce match. Et hier, tu peux faire match nul, mais facile contre le Real Madrid, qui a joué le jeu. C'était pas un Real qui n'avait pas joué le jeu. Enfin, le Real au début a pris peut-être le match par-dessus la jambe, mais on a très vite compris que s'ils ne jouaient pas leur jeu, ils n'étaient pas sérieux, ils n'allaient pas repartir de Braga avec les 3 points. Et face à un bon Real, parce que c'était un très bon Real, Braga a répondu présent et a regardé cette équipe dans les yeux. Donc très fier. Alors, c'est frustrant parce que forcément tu t'attends. Je pense qu'on était plus proche du 2-2 que du 3-1. Ouais. Braga fait vraiment la mi-temps qu'il fallait pour remonter le score. Et donc tu as un sentiment de frustration parce que tu pouvais obtenir au moins ce point du match nul. Mais tu te dis aussi que perdre contre le Real n'a rien de honteux. Mais voilà, c'est rien que d'avoir créé ce sentiment de frustration et de peur chez les supporters madrilènes. Parce que moi j'étais dans ma tribune, il y avait pas mal de supporters madrilènes quand même. Et ouais. Tu vois que certains se bouffaient les ongles. Donc, j'ai trouvé ce match très intéressant pour Braga. Très content de ce qu'ils nous ont montré. Et ça prouve encore une fois, pour certains qui avaient des doutes, que cette équipe n'était pas là par hasard.
Oui, et je pense qu'on peut qualifier la prestation de Braga en parlant, comme tu l'as fait, du Real. En fait, le match du Real, c'est un match typique du Real en Ligue des Champions. C'est-à-dire un match où ils ne sont pas ultra dominants, où ils ont un peu des difficultés, mais ils finissent par gagner à la fin. Mais du coup, si tu considères que ce match-là, c'est un match typique du Real, ben, ça veut dire qu'ils ont pris leur adversaire au sérieux parce qu'ils ont joué comme ils savent le faire en Ligue des Champions, et donc contre un adversaire qui a su les dominer, qui a su jouer le jeu, qui n'a pas fermé le jeu non plus, et qui, malgré tout, parce que voilà, on sait bien que Braga, cette saison, il y a quand même des problèmes défensifs, au final, tu n'en prends que deux contre le Real en n'ayant pas défendu derrière. Alors certes, il y avait un alignement un peu intelligent et particulier de Vitor Carvalho sans ballon au milieu de la défense, mais ça pas pour autant que... Enfin, Braga n'a pas joué qu'un bloc bas, ils ont joué très haut. D'ailleurs, c'est pour ça que Vini a été plusieurs fois lancé dans la profondeur. Mais je pense effectivement qu'en disant que le Real a fait un match typique du Real en Ligue des Champions, ça veut dire que Braga fait un bon match aussi.
Non, c'est vraiment Braga hier, c'est... On s'attendait tous un peu à la petite raclée, à la petite fessée. Bah, c'est normal, hein, c'est le Real Madrid, c'est 14 Ligue des Champions, c'est Bellingham, Vinicius d'ailleurs, tu sens vraiment que c'est des joueurs hors sol. Ils évoluent dans un autre monde, une fois qu'ils accélèrent, c'est vraiment... ils m'ont impressionné. Alors, c'est déjà vrai à la télévision, mais du stade, c'est vraiment exceptionnel, surtout Bellingham. Tu t'attendais peut-être à une petite correction, et pas du tout. Braga entame même mieux le match.
Et le but tombe même
contre le cours du jeu, et le but du Real met un petit coup à Braga quand même, ce qui est logique. Du coup, de la 15e jusqu'à la mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour Braga, mais ensuite la deuxième période est à l'avantage de Braga. Donc tu as ce 2-0 qui est pas mérité, un peu plus mérité que le premier but, parce que le Real avait augmenté de niveau quand même. Et Braga a très bien réagi avec encore un Alvaro Giallo qui est époustouflant en ce moment. Et Braga, mais pousse, et à cette occasion en or de Ricardo Horta, je ne sais toujours pas y faire comment on pourrait la louper. Et t'as aussi une bourde de Kepa, mais tu peux repartir avec ce 2-2 et ça aurait été entièrement mérité. Donc voilà, ça a été un très bon match. Et il faut continuer comme ça, il faut s'appuyer là-dessus pour aller chercher cette troisième place, parce que la deuxième place va être compliquée à aller chercher. Mais Braga mérite de continuer à être en Europe, contrairement à notre club en rouge et blanc.
Ça c'est pas cool. Il s'est déjà mute pour ne pas qu'on entende les sanglots, parce qu'il a dû nous faire une petite explication du match.
Après, ils font pas 0.
Mais ouais, et puis.
Ah, ok, mais c'est la soirée, en fait, j'ai compris.
Mais Alex, il y a aussi un truc, c'est comme tu le dis, effectivement, cette équipe doit continuer, on voit vraiment des belles choses, et je pense qu'on l'a vu à la fin du match, hein, quand t'as vu les joueurs qui sont venus, ils ont senti ce truc qui se crée aussi avec le public. Alors déjà, il y avait une vraiment très très bonne ambiance. Et on a senti ce truc-là. Ils étaient battus, mais on les sentait abattus de se dire « Ah, on n'est pas passé loin ». Mais cet abattement est tout de suite passé dès qu'il y a eu le public. On a senti vraiment un lien qui se crée de plus en plus. Et je pense que, OK, ils ont été battus, mais ils ne vont pas le vivre comme une grosse défaite. Ça va les booster, ça va leur faire du bien. Non, franchement, c'était impressionnant. T'as cité côté Real Vini et Bellingham. Que j'ai trouvé aussi extraordinaire, c'est Modric. On sait bien, mais il y a plus besoin de lister, mais c'est hallucinant. Le gars, il marche 90% du match, 90% du match. Mais
les extérieurs comme ça,
en une fin de
arrêter.
Oh, les extérieurs, les les feintes de corps où il fait un deux joueurs en même temps en laissant juste passer la balle, il est hallucinant. Franchement,
j'ai trouvé Kamavinga aussi très impressionnant, personnellement. Athlétiquement, j'ai trouvé.
Il a fait beaucoup de bien entre les lignes pour casser les reconversions. Ouais. Et dans le même genre, de l'autre côté, Al-Mousrati.
Comme d'hab.
Voilà. Alors là, lui, c'est impressionnant.
On ne sait toujours pas comment, enfin, avec tout le respect qu'on doit à Braga, ce mec-là doit jouer dans un top club européen. Et c'est assez lunaire qu'il soit encore au Portugal à son âge. Mais ouais, clairement, lui et Alvaro Giallo hier étaient les deux hommes forts côté Braga.
Sachi aussi, j'ai trouvé très bon pour Sachi.
Ah ouais, non, j'ai pas Sachi, je trouve qu'il s'est fait malaxer par Vinicius d'une façon.
Ouais, mais c'est vrai dans les 1 contre 1, mais il a coupé beaucoup de longs ballons vers Vinicius.
Ouais, après,
et ses récupérations hautes, c'était pas le même. Effectivement, en 1 contre 1, c'était un peu plus
compliqué. Oui, j'ai trouvé comme, après, ce qui est normal, hein, qu'il n'est pas en difficulté face à Vinicius.
Oui, et surtout à son âge, il a 20 ans, quand même très jeune.
C'est très jeune, donc je ne tire pas la pierre, mais je trouve qu'il a eu énormément de mal à gérer les 1 contre 1 contre Vinicius, mais ce n'est pas que de sa faute, parce que tu ne peux pas laisser Vinicius en 1 contre 1. Mais oui, non, je trouve quand même la défense a été, Niakate a été très bon aussi. Donc il y a vraiment des points positifs à sortir de ce match-là et globalement de cette compétition. Donc bon, on a fini les matchs aller, il faudra voir sur les matchs retour. Mais ce club, on en parle pas mal et avec fierté parce que ça reste un petit budget, mine de rien. Et ce club mérite de d'être plus régulier parce que c'est vrai que c'est compliqué de jouer avec des champions une fois tous les 10 ans. Tu n'as pas le temps de construire grand-chose, donc j'espère pour eux qu'ils vont être un peu plus réguliers pour jouer cette compétition un peu plus souvent, parce qu'ils montrent à chaque fois des très bonnes choses en Europe, et ce n'est pas que sur la Ligue des Champions, c'est même en Europa League, etc. Braga répond toujours souvent en Europa League, donc en Europa League, en Ligue des Champions, donc c'est intéressant d'avoir ce genre d'équipe portugaise en Europe.
Oui, et puis malheureusement, quand on compare avec l'autre match de la soirée, il y a un peu cette mentalité qu'on aimerait que Benfica retrouve, ce truc d'arriver, de ne pas avoir peur, de regarder droit dans les yeux, de dire ok, nous on est Braga, vous êtes le Real, mais on va jouer notre jeu si on a envie de jouer notre jeu. Cette ambition dans le jeu et d'arriver et de pas se faire écraser avant même le début du match, ça c'est quand même quelque chose d'assez fort, surtout comme tu le dis, en plus pour une équipe qui n'est pas habituée à jouer la Ligue des Champions. T'as beaucoup d'équipes qui sont impressionnées par ça. Et réussir à passer outre ça et à dire non, on vient, nous on va jouer comme nous, on a envie de jouer, ça c'est très fort et c'est enthousiasmant aussi dans le foot portugais. Quand tu vois à l'inverse un club qui est très régulier, un sinon plus bas, et très régulier dans les échecs, mais quand tu vois ce que le Vitória fait, notamment l'élimination ici contre Celje dans les barrages, c'est tout l'inverse, c'est une équipe qui arrive, t'as l'impression qu'ils sont là mais sans vraiment être là. Non, Braga ils viennent. Peu importe l'adversaire, on va jouer comme on a envie de jouer et ça c'est rafraîchissant aussi et ça doit donner un exemple pour tous les clubs portugais qui se trouvent en compétition européenne, peu importe le niveau de la compétition européenne, c'est comme ça qu'il faut venir jouer, parce que si tu viens pas comme ça, tu t'ouvriras toujours à des déceptions, soit parce que l'adversaire est plus fort et tu pars battu d'entrée, soit parce que justement tu comptes contre une équipe qui est moins forte que toi mais qui elle vient avec cette mentalité.
On est bien d'accord.
Donc voilà, non, franchement, impressionné. Et comme toi aussi, j'avais un peu peur avant le match, mais pas tellement d'un match où Braga se faisait surclasser, mais plus d'un match où Braga joue bien, mais en encaisse plusieurs parce que le Real est juste plus efficace. Et au final, t'es battu 1-2, mais t'aurais pu et peut-être dû revendiquer mieux. Donc voilà, mais là, on voit la différence entre une équipe qui a pas l'expérience et une autre qui a une expérience monumentale en Ligue des Champions, c'est que comme tu l'as dit, l'occasion d'Horta, le Real qui marque même le premier but, hein, il vient un peu de nulle part aussi, Niakate qui est 10 cm trop tard, sans que ce soit il fait pas d'erreur sur l'action, mais c'est ces petits détails qui changent, mais c'est aussi effectivement comme tu l'as dit, avec la régularité que Braga gagnera cette expérience et pourra faire tourner les matchs de son côté.
On est d'accord, t'as exactement tout dit.
Est-ce que tu avais un autre joueur à mettre en avant spécifiquement, en bien, en mal?
Non, pour le coup, non. Je pense qu'on a été assez complet sur ce match-là. Juste là, je salue la performance collective surtout, parce que les individualités, c'est bien, il faut les mettre en avant aussi, mais là, c'est plus vraiment la performance collective qui m'a impressionné. Et vraiment, très content, très très content. Parce que, encore une fois, je pense que Braga a surpris pas mal de monde. Parce que forcément, quand tu joues contre le Real, tu as beaucoup plus de gens qui regardent. Et je pense que Braga a impressionné, a mis en mot. Ils ont mis leur ville sur la carte. Et c'est ce qui est important. Parce que je pense que tout le monde pensait à une petite correction. Et ça n'a pas été du tout le cas. Et encore une fois, avoir des supporters du Real se ronger les ongles à 5 minutes de la fin, c'est bon signe, et c'était pas forcément prévu dans leur planning, surtout à 2-3 jours du Classico. Donc, très content de la performance. Alors, oui, il y a eu des fêtes, et il faut pas se satisfaire de ça. Mais quand tu compares les deux clubs, tu t'es forcément satisfait du contenu, et tu as de quoi travailler sur ces choses-là.
Ouais, et peut-être juste un truc que j'ajouterais, c'est un peu d'ailleurs de manière générale, hein, comme toute l'équipe, mais. Il en faut quand même, de la part d'Arthur Georges, lancer ce petit Diogo Fonseca. T'as peut-être d'autres gars plus expérimentés à lancer avant. Non, il sent le truc. Ça n'a malheureusement pas donné grand-chose, mais on sentait qu'avec sa qualité de centre un peu particulière, très fouettée, il y avait quelque chose à faire. Il a tenté, ça n'a pas fonctionné, mais il a été bon. Et voilà, lancer un gamin de 21 ans comme ça, faut le faire, faut le tenter. Et je pense que ça représente aussi bien la mentalité de l'entraîneur, la mentalité de l'équipe de pas avoir froid aux yeux et
après, y aller à fond. Moi, j'ai pas trop aimé son entrée en jeu, parce qu'après, tu vois clairement qu'il est pas latéral, que c'est un défenseur centre de formation.
Oui.
J'ai pas aimé ses centres, j'ai pas aimé, il a, pour moi, porté pas grand chose sur le côté droit, surtout que Joe Mendes, je l'ai trouvé très correct pour une fois, contrairement à l'Union Berlin.
Oui, il était très bon. Moi, j'avais peur quand j'ai vu qu'il était titulaire.
Je me suis dit, bon, s'il fait le même match contre l'Union face à Vinicius, il va se faire manger. Il a été très bon, donc sortir pour mettre Fonseca, j'ai pas trop compris, à moins peut-être d'une blessure ou d'une méforme, on ne sait pas. Mais j'ai pas aimé son entrée, mais comme tu dis, Arthur Georges a eu les couronnes de le faire, et c'est à mettre en avant. Et encore une fois, même Arthur Georges prouve en fait que c'est pas un entraîneur qui l'a par hasard et qui a des compétences. Donc, non, très content de cette soirée hier.
D'ailleurs, contre Naples, il y a des fêtes au final, mais ces changements font changer tout. Hein.
Oui.
L'heure de jeu, je crois qu'il fait ce changement, il fait monter Salazar, etc. Et il sent que c'est exactement ce qu'il faut, ça amène le but. Donc voilà, régulièrement, il fait des changements payants. Et même à ce niveau-là, alors qu'il n'a pas une grande expérience, ça montre les qualités d'entraîneur qu'il a aussi.
Ouais. Oh, d'accord.
Et bien voilà, sur ces belles paroles. Kevin, tu avais peut-être quelque chose à ajouter sur ce match qu'on a vu la deuxième mi-temps
Non, pas forcément. Franchement, vous avez été complet. Après, j'ai vu que la deuxième mi-temps, mais j'allais parler un peu de déjà tout ce que vous avez dit sur Braga. De toute façon, on est toujours élogieux sur Braga, et il a encore montré une fois que c'est une équipe qui mérite d'être là où ils sont actuellement, et qui font honneur à la ville, hein, et au club en tout cas qui sont, et au Portugal en tout cas, parce que à chaque fois ils arrivent à répondre présent, et ils s'en sortent toujours bien, même s'il y a défaite à la fin. Au final, ils ont joué comme si j'avais envie, et ils ont un peu donné du plaisir aux supporters aussi, parce que c'est quand même un club, c'est quand même un club qui n'est pas dans le top 3 au Portugal, et ça reste quand même un club qui a bien grandi, et dont les supporters peuvent être fiers, en tout cas.
Ouais, je pense que si ça continue comme ça, nous on le fait déjà, mais si les médias pouvaient passer d'un top 3 à un top 4 au Portugal, parce que je pense que depuis quelques années, on n'est plus sur un top 4 qu'un top 3. Ça serait pas mal aussi. Même s'il faudrait aussi peut-être qu'ils apprennent à parler d'autre chose que du top 3 ou du top 4, mais déjà, s'ils pouvaient installer un top 4, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, parce qu'effectivement, c'est une équipe qui bosse bien, qui grandit, et voilà, ça mérite aussi de d'être mis en avant, comme on essaye de le faire de manière générale, nous, de toute façon. Mais voilà. Ben les gars, si plus personne n'a quelque chose à ajouter, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. On a quand même déjà fait un bon space.
Ah, c'est mention spéciale, vite fait.
Trois matchs. Allez, mention spéciale. J'étais pas sûr si tu voulais les faire en space aussi.
Parce que comme ça, j'en profite aussi pour parler de la Eurostig avec les jeunes de Braga, encore une fois. Du coup, parce que j'ai vu le match. Et là aussi, ils ont regardé voir le Real dans les yeux, donc 0-0. Et là aussi, ça prouve que la formation travaille bien aussi, que Braga sera l'une des équipes à suivre durant cette compétition, et je pense même qu'ils peuvent aller très très loin, parce que c'est leur meilleure génération, c'est la génération 2005-2004 qui est excellente, et ils ont fait un top match contre le Real hier. Le Real n'a quasiment pas vu le jour, même si au début du match le Real a été très bon, mais ensuite le Braga a vite repris le contrôle, avec notamment un Roger Fernandez qui a été exceptionnel et qui a montré qu'il n'avait plus rien à faire dans cette compétition, qu'il mérite déjà de jouer en pro, et il aurait mérité de jouer hier soir plutôt que dans l'après-midi. Donc très content encore une fois du match de Braga, qui ils sont deuxième ex aequo avec le Real dans leur poule. Donc voilà, il n'y a pas que chez les pros que ça travaille bien, chez les jeunes aussi ça travaille très bien, et c'est juste le résultat d'une équipe et d'un club qui travaille très bien depuis une décennie. Donc voilà, très content encore une fois aussi là de la performance de Braga contre le Real, qui reste le Real Madrid, même au niveau de la formation.
Ouais. Kevin, est-ce que tu as une mention spéciale?
Mention spéciale à Martin Fernandes, qui a fait sa première apparition dans l'équipe A de Porto lors du match de coupe là, et qui est pressenti pour avoir un avenir assez radieux, je pense, surtout qu'à son poste il y a joué mal, mais ça reste quand même un joueur, je pense, un joueur générationnel qui a l'avenir, en tout cas va être l'avenir du FC Porto, en tout cas à ce poste de latéral droit, parce que franchement il a toutes les qualités pour, et déjà s'imposer en tant que titulaire avec Porto B, c'était déjà un signe que ça ne trompe pas et qu'il va falloir compter sur lui pour l'avenir.
Oui, je pense que Alex partage ton avis. Alex, notre spécialiste des jeunes joueurs portugais.
Et encore une fois, il fait un top match aujourd'hui contre Werp chez les jeunes aussi. Donc, ouais, non, je rejoins Kevin sur le fait que, après, malheureusement, c'est le problème, c'est qu'il y a Constance en tant qu'entraîneur, donc tu ne sais jamais quand est-ce qu'ils vont jouer.
Oui.
Mais avec un tout autre entraîneur, je pense même qu'il serait déjà dans le groupe et un peu plus souvent sur la pelouse. Donc non, c'est vraiment l'un des tout meilleurs jeunes à ce poste-là, et c'est clairement le futur de la sélection pour ce poste-là.
Phil,
moi, je sais pas, ce sera pas forcément avec le football.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas de mention spéciale sur les lumières ou sur ces spectateurs qui sont pas venus à cause de la pluie.
Et bah attends. Et ma mention spéciale, pour le stade, parce que ça fait 20 ans quand même que le stade existe. Joyeux anniversaire au stade. Maintenant, il a des lumières, des écrans et tout. Tout est parfait. Un DJ. Tout est parfait pour que les gens viennent profiter du spectacle. Il y a même des pipoques qui sont vendus et tout dans le stade.
Il y a des mecs
stade.
Qui mettent de la bière et tout, non?
Il y a tout ce qu'il faut. On est comme au cinéma.
Ah bah oui.
Alors par contre, il faut partir à la 85e, hein, parce qu'après il y a les bouchons. Donc ça c'est super relou. Et puis il pleut à Lisbonne.
Ouais, donc c'est bon, on peut pas venir au stade quand il pleut.
Le mieux c'est
compliqué. Ouais.
Non, le mieux c'est de prendre quand même un abonnement à Eleven Sport pour pouvoir voir les matchs à la télé. Hein. non, quand même.
On va pas se casser la tête, la pluie, voir des matchs de foot, ça n'a pas de sens.
Si tu arrives à venir au stade, attends, il ne faut pas faire de bruit.
Oui, il ne faut pas se lever aussi.
C'est le cinéma, c'est pareil. Il faut... Si tu applaudis un petit peu trop fort, on peut t'engueuler quand même. Donc, pas trop de bruit. Hein. Tu peux venir.
Et tu peux venir avec le maillot adverse.
Mais attention.
Ça aussi, c'est...
Ah oui, bon, c'est normal. Parce que tu peux acheter les places et les revendre à des adversaires. Ça, c'est... Ah, l'économie est dure pour tout le monde, hein, tu sais. Malheureusement.
Ouais.
Putain. Qu'on se marre bien.
Moi, mes mentions spéciales seraient un petit peu plus réjouissant. On va reparler des petits clubs qui ont sorti les clubs de D1 en Coupe du Portugal. Donc petite mention spéciale à Canelas, Villaverdense, Torrens et Paredes, qui ont sorti donc des équipes de division 1. Donc, bravo.
J'ai cru qu'on allait se les taper, hein, Canelas en Coupe.
c'est moi qui me les tape, hein, finalement, avec le Maritime.
Donc, ça serait bien de les sortir, parce que si on les joue, ils vont nous casser tous nos joueurs. C'est
sans blague. Et c'est leur match de leur vie. C'est leur.
Ah ouais.
C'est...
Donc, merci de faire ça, s'il te plaît, Antoine.
On fera tampon.
Alex, t'as vu Famalicão ou pas, du coup? Au penalty, pardon, mais t'avais vu le match?
Non, malheureusement, non. J'ai un agenda.
Ah oui, je comprends pas. Ouais, c'est ça, des George Mendes. c'est le problème.
Non, je ne peux plus voir, mais peut-être là, dans cette nuit-là. Cette nuit, je vais regarder, je vais essayer de voir d'autres trucs.
Bah oui, cette nuit, je vais regarder un match de jeunes en short. C'est logique. Il est fou, ce type.
Bon, les gars, sur ce, bonne soirée. Merci à... à vous deux et puis même à toi Alex qui nous a rejoint pour la fin.
Merci à toi Antoine.
Merci à vous.
Avec plaisir. Merci. Et on espère un bon résultat du Sporting
demain.
Ah ouais,
c'est vrai.
Pour le coefficient.
Oui, on espère un bon résultat du Sporting. Oui.
Ouais, de toute façon, il y a toujours Porto qui fait.
Oh là là.
Non, parce qu'il faut pas entendre.
Il avait dit ça il y a.
Quand tu prends 4-0 à Bruges l'année dernière, t'as pas entendu. C'est comme ça, ça tourne.
Ah ouais,
une fois c'est oui, une fois c'est
oui. Mais nous, on les a battus au match aller. Et vous, je pense que. Je sais pas si vous battez les équipes au match aller, au match retour. Hein. Je sais pas si vous allez battre.
Oui, bon, après ça.
Attends, ouais. Vous faites le 0 points au match aller l'année dernière, non?
Oui.
Donc,
0 sur 6.
Ouais, donc après, vous vous qualifiez quand même.
Ouais, mais c'était 0 sur 6, pas 0 sur 9.
Premier du groupe, il finit.
C'est la merde, toi.
C'était un groupe facile. Excuse-moi, mais Leverkusen, Atletico.
Non, mais je vais te donner espoir, Philippe, mais je pense que.
Ah non, mais il y en a aucun. Oh là là. Oh, c'est trop compliqué, là.
Non, là, c'est Ligue Europa et encore.
Et encore.
Peut-être. Non, mais non.
Non, cette année, on se concentre sur la Coupe du Portugal. Parce que même le championnat, je sais pas. Hein.
Après, tu peux faire un doublé de coupe.
Ah oui.
Avec l'Allianz Cup.
C'est pas mal déjà.
Bon.
Bah, les gars.
Bon, les gars, bonne soirée. Oui.
Merci beaucoup.
Et merci de nous avoir suivis. Et on se tient au courant pour la suite de toute façon. Retour bientôt la semaine prochaine des émissions. Je ne sais pas s'il y aura un space demain. Ben, Alex, est-ce que tu sais s'il n'y en aura pas?
Étant donné que normalement, j'ai tout seul à être présent, je ne vais pas faire un space tout seul. Ouais. Donc, je ne pense pas.
Donc voilà, donc on reparlera sans doute la semaine. Ouais, on mettra peut-être un petit mot sur la performance pendant l'émission. Yep. Mais voilà, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous trois, les gars, d'avoir été
présents. Merci
à toi, Antoine. Et merci. Avec plaisir. À la prochaine.
Ciao,
ciao.
Merci à tous. Ciao.